Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masséka.
Au sommaire de cette édition, l'évêque du diocèse catholique de Boutembo-Béni s'alarme du silence honteux après les massacres survenus dans cette région. Monseigneur Sikouli Melkisedek parlait des souffrances imposées aux habitants par des bandits qui circulent impunément. Rencontre aujourd'hui à Kinshasa entre la secrétaire générale de l'OIF et les étudiants de l'UPC. Louise Mushikiwabo a annoncé l'installation prochaine des campus numériques dans 300 institutions de l'agence universitaire de cette organisation. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Objectif visé, inciter les États à disposer des ressources nécessaires pour conserver, développer et faciliter l'accès à l'eau potable. Et puis notre invité, c'est le directeur pays de l'ONU Habitat. Abel Wallendom parle des actions menées après le symposium de Goma sur le foncier. Madame, messieurs, bonsoir. L'évêque du diocèse catholique de Boutembo-Béni dénonce ce qu'il qualifie de silence honteux après les massacres des civils dans cette région. Cette dénonciation de Monseigneur Sikouli Melkisedek est contenue dans un message intitulé « Par amour de mon peuple, je ne m'éteirai point ». Pour en parler, retrouvons à Béni Martial et Papi Moukeba.
Dans ce message, l'évêque de Boutembo-Béni s'adresse aux prêtres consacrés et fidèles laïcs de son diocèse à l'occasion de la journée des prières et des jeûnes en mémoire des missionnaires commémorée le 24 mars de chaque année. Monseigneur Paluku Sikouli Melkisedek dit profiter cette occasion pour dénoncer les souffrances insupportables imposées au peuple consécutives à la situation sécuritaire dans la ville et les territoires de Béni. Il parle des tueries, massacres, enlèvements et déplacements des populations civiles suite aux barbaries commises par des personnes sans foi ni loi qui, selon lui, circulent librement sur les territoires nationaux comme s'il y avait absence de l'État. Suite à cette situation, l'évêque de Boutembo-Béni dit unir sa voix à celle du Saint-Père pour dénoncer ce qu'il qualifie des silences hontés à propos des massacres de Béni. À travers ce message, Mgr Sikouli vient également d'appeler la population de Béni et Boutembo à voter massivement pour une véritable alternance lors des élections législatives et provinciales prévues le 31 mars dans la région. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
On reste dans la région où les habitants de certains quartiers situés au nord de la ville de Goma ont manifesté pour protester contre la mort de 4 personnes tuées par balle hier soir à Bouéné, en territoire de Nyiragongo. D'autres ont été enlevés lors de l'incursion de l'armée. Le point de la situation avec vous, Sifa Maguru.
La police de Nyiragongo parle d'un groupe d'hommes armés en provenance du parc de Virunga et qui ont attaqué la population de Bouéné aux environs de 19h locales. Ces assaillants ont attaqué certaines maisons où ils ont tué 3 personnes avant de tirer sur une femme alors qu'il s'est retiré déjà vers le parc national de Virunga proche. Ces malfrats ont incendié les bureaux du quartier Ngangi et endommagé une moto de la police alors que certains éléments tentaient de réagir face à cette attaque. La société civile de Nyiragongo ajoute que 2 autres incidents ont été enregistrés à Kibati, dans le village Mugeroa, où 2 maisons ont été cambriolées et pillées par des hommes armés. Ces derniers ont blessé une femme au village Kiziba 2, en groupement Mudja, avant de se retirer en direction du parc. Notre source ajoute qu'une autre personne a été tuée à coups de pierre la nuit par la population de Kiziba, suspectée d'être parmi les assaillants. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite aujourd'hui des affrontements à Mutchaliko et à Loa Eta entre les FARDC et des hommes armés, dit les revendicants, dans les territoires de Bundu situés à 125 km au sud de Kisangani. Le bilan fait état de beaucoup de blessés parmi les loyalistes et les déplacés. Le récit d'Anselme Massoua.
Selon l'administrateur du territoire d'Ubundu, les belligérants se battent sur ces 2 localités vidées de leurs habitants, les FRDC dans la cité et les revendicats dans la forêt. C'est par moments, dit-il, que les revendicats sortent de la forêt et attaquent l'armée gouvernementale. Le village au sud de Loa, à la limite avec la province de Maniema, poursuit la même source, se vide aussi de ses habitants. Ces derniers, en grand nombre, vont se réfugier à Kowe, une localité de Maniema. Des militaires grièvement blessés qui arrivent à la cité d'Ubundu sont les uns directement transférés à Kisangani pour des soins et les autres se font soigner sur place. Par ailleurs, l'autorité territoriale se plaint du comportement des militaires militaires venus en renfort et en attente d'un éventuel déploiement à Loa. Le mercredi dernier, suite à une incompréhension sur l'île, deux d'entre eux se sont tirés des balles pendant la nuit au sein de l'hôpital général de référence de Bundu. Une situation qui a paniqué non seulement les malades internés, mais aussi les habitants de la cité, affirme Abbé Augustin Yafoufa, curé intérimaire de la paroisse Saint-Joseph de Bundu. À propos des déplacés, l'administrateur du territoire s'impatiente à attendre l'intervention du gouvernement congolais en vue de faire face à la situation que traversent plus de 6500 personnes. Elles sont sans assistance depuis leur arrivée à Ubundu Centre il y a de cela plus d'un mois. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. La CENI annonce que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura lieu le 10 avril prochain. La campagne électorale ira du 6 au 8 avril et les gouverneurs élus seront installés le 2 mai. Pour rappel, initialement prévu le 27 mars, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs avait été reportée par la dernière réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, suite aux allégations de corruption qui avait émaillé les sénatoriales. Dans le cadre de la semaine de la francophonie et profitant de son séjour ici à Kinshasa, la secrétaire générale de cette organisation a conféré aujourd'hui avec les étudiants de l'université protestante au Congo. Louise Mushikiwabo a dévoilé à l'occasion les priorités de son mandat pour les quatre prochaines années. Elle inscrit l'éducation et le numérique pour les jeunes au centre de ses actions. Objectif visé, installer des campus numériques dans 300 universités que compte l'agence universitaire de l'OIF. Elle s'est confiée à Daniel Tamizoni.
Dans les programmes de la francophonie qui existent déjà, dans les programmes prioritaires que moi-même je vais porter avec notre agence universitaire de la francophonie, c'est l'éducation, le numérique pour la jeunesse. Les priorités de notre organisation, au-delà du rayonnement de la langue française qui se retrouve dans tous les secteurs d'activité, sont, comme je viens de le dire, et c'est une double priorité pour moi, c'est la jeunesse, c'est l'éducation. Le numérique est une révolution. C'est un atout, à mon avis, qui doit être à la portée de la jeunesse. C'est un atout qui est à l'intersection du savoir, de l'information, de l'éducation, de l'emploi, du partenariat. Et c'est un outil qui ouvre les horizons pour la jeunesse.
Dans l'Équateur, plus de 500 personnes sont sans abri à Lolo, localité portuaire et commerciale sur la rivière Boussira à 137 km de Mbandaka. C'est suite à l'incendie de leur maison hier soir. Le chef de secteur de Lusanganya, en territoire de Bolomba, appelle à l'aide de sa hiérarchie et des humanitaires afin de pouvoir assister les sinistrés parmi lesquels il y a 285 enfants et 125 femmes. Le récit de Paul Richard Malengela.
Le chef de secteur de Lusanganya, Freddy Bolefa, affirme qu'il s'agit d'un incendie accidentel. Il a été favorisé par la forte chaleur qui a lieu actuellement dans la région. Le feu est parti du dépôt d'un certain paysan, Piroger Weti, où sa femme enfumait des poissons. À son absence, les huiles qui suintaient ont attisé le feu qui a embrasé tous les séchoirs et la maison entière. À la faveur d'un vent qui soufflait ce jeudi autour de 13 locales, a indiqué Monsieur Bolefa, l'incendie va se propager rapidement sur plusieurs cases dans l'entour. Dans la débandade, la population n'a fait que constater les dégâts. Le chef de secteur arrivé sur les lieux dit avoir dénombré une cinquantaine de maisons emportées en fumée avec leurs biens. Rien n'a été épargné, a-t-il ajouté. Vivres, vêtements, articles de ménage, produits de chasse et de pêche, dont vivent ces riverains, tout a été calciné. Plus de 500 victimes passent alors la nuit à la Belle Étoile et sont exposées aux maladies. Des élèves, faute d'objets classiques et uniformes, ne vont plus à l'école. D'où le SOS du chef de secteur à l'endroit des autorités provinciales et nationales, ainsi qu'aux humanitaires. Il sollicite un appui urgent en vêtements, vivres, médicaments et objets classiques pour les sinistrés de Lolo. Bandaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Objectif visé, inciter les États à sensibiliser, à disposer des ressources nécessaires pour conserver, développer et faciliter l'accès à l'eau potable. Ici à Kinshasa, des initiatives sont prises par des privés pour pallier la carence de cette denrée vitale. C'est le cas du quartier Matadi dans la commune de Bumbu. Un reportage de Rachel Kiesse.
Nous sommes sur l'avenue Touissana. Selon un habitant, cela fait plus de 3 mois que l'eau ne jaillit plus de robinet.
Auparavant, l'eau sortait dans les robinets le mercredi et le dimanche. On a fait plus de 3 mois, il n'y a pas de l'eau. On commence même à chercher des pousse-poussettes pour aller chercher de l'eau, voire même en guéringuer. De bidons, on achète ça à 500 francs. Si vous avez 10 bidons, c'est 5000. Le paix que nous gagnons, ça ne répond pas avec les salaires que nous gagnons. Ça pèse. Nous avons un ami ici qui a creusé, qui a fourré de l'eau. Mais les eaux ne sont pas traitées. On prend ça directement comme ça, on utilise ça comme ça.
Crispin Kidinda, gérant du forage, donne le raison de l'engouement de gens qui viennent chercher de l'eau dans leur parcelle.
Ici à Bumbu, les dames, les mamans, les enfants sont en train de se tracasser pour avoir un bidon d'eau. C'est pourquoi nous avons pensé de pouvoir créer le forage. Nous avons déployé des moyens et nous avons trouvé de l'eau. Et effectivement, les gens avaient besoin de l'eau. Nous nous sommes décidés de pouvoir sortir 4 robinets dehors pour que nous puissions servir de l'eau aux habitants de Bumbu.
Ces initiatives de forage d'eau par les privés s'étendent dans plusieurs coins de la capitale. Et cela facilite d'une certaine manière la population à accéder à l'eau potable.
L'invité. Notre invité ce soir, c'est le directeur pays de ONU Habitat. Après le symposium tenu à Goma, au Nord Kivu, sur le foncier, au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, Abel Walendom parle maintenant des actions de sensibilisation menées. Il s'entretient avec Freddy Bikumbi.
Monsieur Abel Walendom, bonjour.
Bonjour.
Le symposium sur la problématique terre a penché beaucoup sur le foncier rural au nouvel agenda urbain en RDC. À des termes simples, que comprendre par ces concepts?
En fait, l'objectif de ce symposium provincial, c'est de se retrouver avec les différents partenaires avec lesquels nous avons mis en œuvre les programmes d'ONU Habitat en RDC depuis une vingtaine d'années, pour faire un peu le point de la situation et ensemble tirer les leçons pour se tourner vers l'avenir. Alors, si nous l'avons intitulé le thème de ce symposium, du foncier rural au nouvel agenda urbain, c'est pour refléter le travail que nous faisons dans le pays. En fait, ONU Habitat intervient essentiellement dans le foncier en RDC en ce moment. Nous avons travaillé énormément dans la résolution des conflits fonciers et nous passons en ce moment au stade de la planification foncière participative. Et depuis à peu près 2 ans, nous appuyons le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la réforme foncière, qui consiste à définir une politique foncière pour le pays et à revoir la loi foncière qui date des années 70, en l'occurrence 1973 avec un peu plus de précision. Donc sur cette base, nous disons, bâtissons sur notre avantage comparatif sur le foncier maintenant pour regarder vers l'avenir. Et le mandat d'ONU Habitat, depuis qu'il lui a été donné par la conférence Habitat 3 de Quito en République d'Équateur, est de mettre en œuvre le nouvel agenda urbain, d'appuyer les pays membres à mettre en œuvre le nouvel agenda urbain. Et c'est ce que nous envisageons de faire dans les années à venir avec la RDC. Donc aider le pays non seulement à se focaliser sur les axes essentiels de du nouvel agenda urbain, mais sur cette base d'aider à améliorer les conditions de vie de ces populations.
Et au cours de ce symposium, plusieurs projets ont été expliqués, qui sont même en exécution, en Ituri, au nord et au sud de Kivu, en vue de la stabilisation de la RDC. Quelles en sont les avancées actuelles?
Alors nous avons plusieurs projets dans le cadre de la stabilisation. On en a à peu près 7, mais ceux qui sont en cours en ce moment, c'est le projet IRF 2 du sud Irumu. Et puis le projet autour de Kichanga. Et essentiellement dans ces deux projets, nous appuyons les communautés à créer un cadre stabilisé pour leur développement économique et social, à travers non seulement l'amélioration du dialogue social, mais également en signant des chartes donc communautaires qui permettent de résoudre les problèmes fonciers à leur niveau et de permettre donc de définir un cadre de réalisation de leurs activités économiques et sociales.
Quelques défis?
Oh, les défis, il y en a beaucoup, puisque, comme on l'a dit hier, le Congo est vaste. En se basant simplement sur la région donc des 3 provinces de l'est du pays où nous travaillons, le premier défi est celui de la sécurité, bien entendu. Et si nous ne travaillons pas dans des zones sécurisées, il est difficile d'obtenir des résultats. Le second défi que nous avons, c'est la capacité. Donc, autant la capacité de l'administration que celle des communautés dans lesquelles nous travaillons. Et notre objectif, c'est donc de renforcer leur capacité de manière à ce qu'eux-mêmes ils soient à même de prendre en charge leur développement.
En quoi ce symposium était important pour la République démocratique du Congo?
Ce symposium est important parce que Oni habitait dans le pays depuis une vingtaine d'années et travaille dans le cadre des accords de coopération sectorielle avec des départements. À travers ce symposium, nous voulons non seulement jeter les bases d'un programme pays, donc qui englobe l'ensemble du pays, mais également se doter des moyens pour signer avec la RDC un accord de siège qui permettra à ONU Habitat de mieux s'ancrer dans le pays et de pouvoir mieux apporter son appui au développement de la RDC.
Monsieur Abel Walendom, Radio Okapi, vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie.
Il est 18h15 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.